installez-vous, ouvrez grand les oreilles, les Midi de Culture poursuivent leur chemin. À 13h, je serai avec Lio, la chanteuse viendra nous parler de son dernier album et de son parcours dans l'industrie du disque. Mais avant, c'est l'heure de retrouver Sophie-Catherine Gallet, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Demain s'ouvre la 39e édition du Festival International des Jeux à Cannes. Et depuis quelques années, le jeu de société connaît un regain d'intérêt au point que la France est devenue le premier marché européen selon des chiffres de 2024. Comment comprendre cet engouement? Qui joue aujourd'hui et qu'est-ce que cela raconte de notre société? C'est notre dossier du Point Culture du jour. Vincent Berry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord et spécialiste du jeu. Alors on parle de plus en plus de l'engouement pour le jeu et notamment le jeu de société, d'un retour de cette pratique, que ce soit dans des cercles privés ou dans des bars à jeux. Est-ce qu'on peut dater ce nouvel engouement? Est-ce qu'il y a eu par exemple un renouveau après les périodes du confinement?
Alors, le confinement a clairement été un moment de réaccélération, on va dire, des pratiques de jeu en France. Mais en même temps, le jeu de société, il ne cesse de progresser depuis les années 80. Mais il est un peu invisibilisé, on va dire, par le jeu vidéo. Et puis, effectivement, depuis les années 80, il progresse chaque année. Et là, il a atteint effectivement un niveau de pratique et un équipement, on va dire, dans les foyers, mais comme vous l'évoquez, dans les bars à jeux, qui fait qu'il est particulièrement visible depuis 4-5 ans.
Et comment on peut expliquer ce renouveau de cet engouement? Comment vous l'expliquez-vous?
Alors, en fait, il y a eu on va dire, une dimension un peu générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération dans les années 80 qui a connu en fait une transformation du jeu de société et qui s'y est largement adonnée. Et puis, progressivement, on a vu que c'est plus que générationnel, c'est-à-dire que chaque nouvelle génération joue autant au jeu de société que la précédente. Alors les raisons qui expliquent un peu le succès, il faut bien voir que en France on a deux types de pratiques. On a les pratiques entre adultes hein, qui elles ont largement progressé, et puis aussi les pratiques en famille hein, qui sont largement développées. Alors quand on fait des enquêtes sur les pratiques de jeu en famille, on se rend compte que le jeu de société a gagné une sorte de valeur culturelle et éducative qu'il n'avait pas auparavant. C'est-à-dire qu'autrement on va dire avant, le jeu de société est plutôt perçu comme un divertissement, mais qu'on faisait plutôt en bas des hiérarchies culturelles, quoi. C'est-à-dire que, bon, pour le dire trivialement, quand il pleut et qu'il faut s'occuper, on va faire une partie de Monopoly. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir des années 80-90, le jeu de société en famille a trouvé une valeur un peu différente, notamment devant l'écran. C'est-à-dire qu'au fond, le temps qu'on passe ensemble autour d'un plateau de jeu, c'est un moment, en fait, un temps qu'on passe pas devant les écrans. Donc là-dessus, il a un peu gagné. Sur les pratiques entre adultes, elles aussi, elles ont progressé. Et c'est vraisemblablement lié aussi à cette dimension un peu culturelle du jeu de société, c'est-à-dire que le jeu de société s'est développé, il a proposé d'autres types d'expériences, des expériences un peu immersives, etc. Et donc il y a toute une génération et d'autres générations qui ont trouvé une valeur culturelle dans le jeu de société qu'il n'avait pas auparavant. Ce qui explique largement ces deux formes de progression, ouais.
Et donc le Festival International des Jeux ouvre vendredi 27 février à Cannes. Et depuis plusieurs années, le secteur du jeu de société semble connaître une dynamique de légitimation culturelle. Est-ce que c'est ce type d'événements qui ont contribué à cette dynamique? Et sinon, quels seraient les autres signes de cette légitimation en cours pour vous?
Bah alors, vous l'avez évoqué, il y a effectivement des prix, des festivals. L'autre phénomène qu'on observe, on va dire, depuis une quarantaine d'années, c'est une culture de l'auteur aussi du jeu de société. C'est-à-dire que le jeu de société a beaucoup emprunté au domaine du livre. Et on voit que les boîtes sont signées par des auteurs. Il y a une culture de l'auteur où on arrive à repérer des concepteurs de jeux qui ont un certain style, une façon de produire des jeux. Et donc, on a vu une espèce d'écosystème en fait culturel du jeu de société qui s'est constitué pour valoriser des titres, valoriser des auteurs, valoriser aussi des illustrateurs. Et on l'a vu progressivement, effectivement, se légitimer par des systèmes de prix, de récompenses. Et l'autre point aussi qui est très particulier aussi à la France, c'est l'importance de son réseau de distributeurs et de vendeurs de jeux de société. Eux-mêmes s'appellent les ludicaires, hein, en relation avec les bibliothécaires ou les libraires ou encore les disquaires. C'est cette idée de réseau de petites boutiques hein, qui vont défendre le jeu de société, vont promouvoir certains titres par rapport à d'autres. Et donc là, on voit qu'on a aussi une sorte, peut-être pas d'imitation, mais en tout cas de reproduction d'un système culturel qui va valoriser certains titres sur d'autres.
Alors si on parle jeu de société, on parle aussi nécessairement de joueurs, on a commencé un tout petit peu à en parler. Est-ce qu'il y a une évolution des caractéristiques de ces joueurs? Quelles sont les tranches d'âge, les classes sociales aussi qui jouent? Et peut-être plus qu'avant?
Oui. Alors, en fait, il faut voir un peu d'où on part. C'est-à-dire que j'évoque souvent ce tournant des années 80 comme un moment où il y a eu une dynamique autour du jeu de société. En fait, le jeu de société va se développer particulièrement, on va dire, dans les classes moyennes et supérieures, avec un petit effet quand même de diplôme, où on va voir qu'il y a eu une espèce d'installation durable dans ces classes moyennes du jeu de société comme une pratique culturelle tout à fait légitime. C'est vrai aussi du jeu en famille, hein. On se rend compte que le jeu en famille est plus soutenu, pratiqué dans les cellules familiales plutôt diplômées, notamment avec un effet très fort du diplôme de la mère. Et donc aujourd'hui, quand on regarde un peu la sociologie des pratiques de jeu, on va voir cette pratique-là plutôt chez les professions intermédiaires. Et ce qu'il faut voir en même temps, c'est que le jeu de société s'installe dans cette, on va dire, dans ces classes sociales, mais à mesure aussi que le jeu de société disparaît des classes populaires. C'est-à-dire que quand on regarde la France des années 60-70, par exemple, on avait plutôt les pratiques de jeu étaient les plus développées, on va dire, plutôt dans les milieux populaires, dans les cafés. Et en fait, il y a une espèce de glissement, de basculement dans les années 80, où on va voir les pratiques populaires de jeux de société, alors bien sûr, les jeux de cartes traditionnels, les jeux de dés, les dominos, diminuer à mesure, au fond, que les classes moyennes vont s'approprier complètement ce nouveau type de pratiques ludiques. Et donc, on a une espèce d'inversion, on va dire, hein, ou de glissement, en fait, des pratiques de jeux des classes populaires vers les classes moyennes et supérieures.
Alors, dans l'expression « jeu de société », il y a bien sûr le mot « société ». Et donc, que raconte une société le besoin du jeu et qui plus est du jeu collectif? Est-ce qu'on peut comprendre, au fond, une société, la manière dont elle se perçoit aussi, peut-être, par les jeux auxquels elle joue?
Quand on regarde, en tout cas, l'évolution éditoriale du jeu de société montre assez bien que, alors c'est un peu un truisme, mais c'est vrai, c'est-à-dire que le jeu de société est assez porteur d'un certain nombre de valeurs, de représentations du monde social, etc. Avec des collègues, on avait travaillé sur effectivement l'évolution des contenus, par exemple, et des thématiques. Et on s'était rendu compte que si vous prenez les jeux des années 60, 70, et puis même le début des années 80, on est encore dans une France des Trente Glorieuses, c'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup de jeux autour alors des autoroutes, de l'extraction minière, du pétrole, je sais pas, des jeux comme Richesse du Monde, etc. Et à mesure, au fond, que le jeu de société va se développer, on va voir aussi les contenus se transformer, c'est-à-dire tout d'un coup des jeux, alors c'est très vrai un peu aujourd'hui, mais on le voit apparaître dès les années 90, des jeux autour de la thématique de l'écologie, du monde animal, de la gestion des forêts, et donc on voit que le jeu s'inscrit complètement dans cette représentation que la société se fait d'elle-même, et puis des enjeux en fait, hein, qui sont à défendre parfois.
Merci beaucoup Vincent Béré.
Merci à vous.
Suite de l'actualité, le Festival international du film de femmes de Créteil va être reporté.
Oui, initialement prévu du 6 au 14 mars prochain, cet événement qui aurait dû célébrer cette année sa 48e édition vient d'être reporté à une date ultérieure pour l'instant inconnue. Le festival n'est en effet pas en mesure de financer son édition 2026 après avoir subi une réduction de 30% de ses subventions. Dans un communiqué, l'association qui gère l'événement a assuré être à la recherche de nouveaux financements, notamment auprès de partenaires privés, pour tenter de sauver le festival.
La première vidéo publiée sur YouTube, intitulée Me at the Zoo, vient d'être acquise par le Victoria and Albert Museum à Londres.
Oui, d'une durée de 19 secondes, ce clip vidéo publié le 24 avril 2005 montre Jawed Karim, le cofondateur de la plateforme, devant des éléphants au zoo de San Diego. Si son sujet est purement anecdotique, le Victoria and Albert Museum a décidé de la présenter dans ses collections car elle incarne un moment de bascule vers un internet grand public et participatif. Exposé sur un écran avec la reproduction de la page web d'origine, cet objet illustre par ailleurs l'interface type d'une page internet avec sa section commentaires ou son bouton play. La vidéo rejoint ainsi les 250 objets de la section dédiée au design depuis les années 1900, aux côtés d'une clé USB ou encore d'une chaise de Marcel Breuer.
Et pour finir, on connaît le nom du prochain président du jury du Festival de Cannes.
Et c'est le réalisateur Park Chan-wook qui aura l'honneur de présider le jury de cette 79e édition qui se tiendra du 12 au 23 mai prochain. Le cinéaste sud-coréen, âgé de 62 ans, est un habitué du Festival de Cannes, où trois de ses films ont déjà été primés, parmi lesquels Old Boy, Grand Prix du jury en 2004. Park Chan-wook a déclaré « En cette époque de haine et de division, je crois que le simple fait de se rassembler dans une salle de cinéma en synchronisant nos battements de cœur permet de créer de la solidarité émouvante et universelle. Une nomination qui témoigne aussi à nouveau de la puissance du soft power sud-coréen.
Merci beaucoup Sophie-Catherine et on vous retrouve demain
et oui, à
pour
demain.
De nouvelles actualités culturelles. Il est 13h et vous êtes sur France Culture.